Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour. Le média d'investigation Splend alerte sur le financement par les régions de la formation des futurs patrons de l'agroalimentaire. Une interview pour annoncer la première édition du festival Les Dialogues à l'EHESP à Rennes. Il y aura de la musique dont une nouveauté. Dal Kennedy, 8e épisode de notre série de portraits d'habitants avec aujourd'hui Abou. Et puis une recommandation, c'est le lancement d'un cycle de conférences sur les transitions. Bienvenue dans l'arène.
Salut, c'est Ambre et on commence l'émission avec l'info du jour, une choisie parmi d'autres dans l'actualité locale. La Bretagne s'apprête à renouveler ce lundi sa subvention à destination de ce potentiel, la formation en communication des futurs grands patrons de l'agroalimentaire. Et c'est le média indépendant breton Splend qui nous en parle. Ce programme de formation, c'est le bébé de plusieurs mastodontes de l'agro comme Saviol et Eureden, pour ne citer qu'eux en tout cas. Et selon les dires de Spot 29, l'association porteuse de ce programme, l'objectif et de constituer une pépinière de futurs responsables agricoles et ruraux. Maintenant, est-ce que vous voulez connaître le nom de son référent pédagogique ? Eh bien, c'est le lobbyiste Hervé Leprince, patron de l'agence de com New Sense et directeur délégué du collectif Les Omnivores. C'est un fervent dénonciateur de ce qu'il appelle l'ultra-écologie et c'est un monsieur qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage quand il s'agit de discréditer les vilains journalistes qui enquêtent sur l'agro-industrie. Et il va même jusqu'à les accuser de nourrir une théorie du complot en utilisant, je cite, « une réécriture militante de la réalité ». Rien que ça. Bref, c'est une enveloppe de 9000 euros qui devrait être votée ce lundi au Conseil régional de Bretagne. Et si ce n'est pas la première fois, eh bien, c'est peut-être la dernière. Le cabinet du président de région souligne qu'après ça, l'association ne sera plus financée par la région et qu'elle devra trouver un nouvel équilibre financier. Au regard des moyens considérables de ses fondateurs, on ne se fait pas trop de soucis pour eux. L'article complet est à retrouver sur splend.org. Et donc après cette info du jour, on continue et on retrouve Lucie avec l'interview du jour.
S'il fallait choisir un mot qui vous interroge, ou un mot que vous aimez, ou un mot qui est souvent dans votre quotidien.
Bah, c'est le mot dialogue, je dirais, de manière assez évidente, puisque un, c'est le quotidien, et que derrière, il y a un certain nombre de valeurs que véhicule ce mot qui me semble être extrêmement importante aujourd'hui. Le dialogue, ça renvoie à la question de la liberté, ça renvoie à la question de l'écoute, qui je pense est assez malmenée, et à la question du temps. En effet, souvent on a un champ de contraintes qui vient emprisonner en quelque sorte les mots. Et je pense qu'on a besoin de prendre cette respiration, d'essayer de redéployer un peu nos ailes. Et ça implique du temps, ça implique des capacités d'écoute, pour que non pas on cherche toujours à trouver des résultats ou des solutions, mais parfois juste simplement poser des questions. Et je pense qu'on a des difficultés à poser sereinement les questions, et on a plutôt tendance, voire une obsession, à toujours trouver des résultats, avant même de pouvoir poser de manière qualitative certaines questions.
Vincent Fertet, bonjour.
Bonjour Lucie.
Je vous présente, vous êtes directeur adjoint des études à l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique, qui organise en partenariat avec les presses de l'EHESP. La première édition du festival Les Dialogues, ça se passe dans une semaine, lundi 13 mai en soirée. On commence par représenter cette école, l'EHESP, qui est implantée sur le campus Villejean à Rennes. On redit combien de personnes s'y forment et puis dans quel domaine pour commencer ?
Alors l'EHESP pour l'école des hautes études en santé publique qui accueille environ 800 étudiants, 800 apprenants plutôt, tout au long de l'année sur des formations qui sont à la fois des formations de type fonction publique pour former les cadres de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État, donc toutes celles et ceux qui au quotidien dirigent les établissements de santé, à la fois dans le champ sanitaire mais aussi dans le champ médico-social et dans le champ social, et puis des étudiants qui sont formés dans le cadre de master, d'une offre plus classique de formation, qui après travailleront également dans le secteur de la santé publique. Et puis on a une activité très importante de formation continue, ça représente environ 8000 stagiaires de la formation continue chaque année qui sont accueillis dans une de nos formations.
Il y a aussi parmi les étudiants une grande partie d'étudiants qui viennent de l'étranger, avec beaucoup de pays qui sont représentés.
Oui, en effet, on accueille un certain nombre d'étudiants internationaux qui viennent suivre des formations, principalement des formations diplômantes. Et puis on a une activité de recherche qui est importante, avec également des enseignants-chercheurs qui viennent sur un format de professeurs invités à l'école.
Alors, le point de départ à l'événement qu'on annonce aujourd'hui, on le redit, un festival qui s'appelle Les Dialogues, c'est, alors là c'est moi qui choisis le mot, mais on va dire l'infobésité, à savoir, pour citer le communiqué, une pluie de mots, un déluge de bruit autour de nous. Comment a été lancée cette idée d'événement ?
Alors cette idée, elle part un peu d'un double constat. Le premier, c'est qu'en effet, on est saturé d'informations, de messages qui viennent à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, et que finalement, dans ce déluge, dans cette pluie de mots, on ne sait plus très bien ce que veulent dire les mots. Et le parti pris de ce festival, c'est de faire un pas de côté, de prendre sa respiration en quelque sorte, et de prendre le temps d'aller questionner le sens des mots. Donc c'est revenir un petit peu aux fondamentaux et de s'interroger sur à la fois ce que veut dire un mot, et puis d'essayer de comprendre les réalités auxquelles renvoie ce mot.
Alors on lit aussi sur le communiqué que ces mots là qui circulent aujourd'hui à grande vitesse, qui nous arrivent à travers des images, des sons, des vidéos, comportent des paroles qui pour les uns sont morcelées, parfois découpées, et avec des mots qui sont malmenés. Je me demandais si ça c'était peut-être une inquiétude du public de chercheurs qu'on trouve à l'EHESP, d'avoir des mots parfois dévoyés de leur sens. On nous parle aujourd'hui beaucoup du bon sens, tout irait de soi.
Ce qui est sûr, c'est que dans un domaine comme celui de la santé publique, déjà, les questions de santé publique sont vite des questions d'intérêt général. C'est-à-dire que quand on parle d'inégalité d'accès aux soins, de management, de prévision, d'anticipation, questions environnementales, très très vite, ce qui s'applique au monde de l'hôpital, on va dire, ou du monde sanitaire en général, finalement, ça peut être des questions qui intéressent tout citoyen. On dit souvent qu'on vit dans des sociétés complexes, sans trop savoir évidemment la complexité d'où elle vient. Et beaucoup de chercheurs, beaucoup de penseurs sont amenés à penser que finalement, si on était peut-être plus attentif aux mots qu'on utilisait, on serait peut-être plus en capacité de s'écouter, de dialoguer, de dégager des compromis, des consensus. Et que peut-être que finalement, cette fameuse crise de la démocratie dont on parle, elle est aussi peut-être une crise du langage. Et que finalement, c'est un peu un parti pris aussi de ce festival, c'est de se dire qu'en prenant le temps de se réapproprier en quelque sorte les mots et la complexité de leur définition, on développe une capacité d'écoute qui est certainement mise à mal. Je me souviens de Stéphane Hessel, le philosophe et historien, qui disait que si tout le monde parlait au moins deux langues étrangères, il y aurait beaucoup moins de guerres dans le monde. Et c'est quelque chose qui nous a inspiré en tout cas dans la préparation de ce festival.
Votre idée donc à l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique, c'est avec cet événement de faire une pause et de laisser passer un peu de lumière pour éclairer sous un autre angle le sens des mots, l'essence des mots. Des mots, vous en avez choisi trois. Vous nous dites lesquels et puis pourquoi cela ?
Alors on a choisi trois mots pour cette première édition, le mot prévoir, le mot mourir et le mot observer. Et le principe de ce festival, c'est de questionner le sens des mots en invitant des penseurs, des intellectuels issus d'horizons intellectuels complètement différents à venir questionner le sens des mots. Donc, par exemple, pour le mot prévoir, on a invité un astrophysicien, Roland Lehoucq, et un auteur de science-fiction, Hugo Bellagamba, qui tous les deux vont se poser la question de, finalement, de quoi prévoir est-il le nom ? Quand je prends mes lunettes d'astrophysicien, qu'est-ce que ça veut dire pour moi que de prévoir ? Quand moi, je prends ma plume et que je suis écrivain et que j'écris une histoire de science-fiction, qu'est-ce que ça veut dire de prévoir ? Et finalement, peut-être de montrer qu'on a besoin de tout le monde pour comprendre le sens des mots. Et que l'auteur de science-fiction a besoin des hypothèses du physicien pour que sa trame et son histoire soient la plus crédible possible. et que le physicien a besoin de l'imaginaire du romancier pour dépasser finalement les limites de la science. Pour le terme mourir, on a invité un neuroscientifique de l'Institut du cerveau, Stéphane Charpier, une sociologue, Cécilia Caleros, qui travaille beaucoup sur les questions de transhumanisme, et puis une designer, Antoinette Parot, qui travaille beaucoup sur la question de l'apaisement de la douleur et du rôle des objets et de l'espace dans l'apaisement de cette douleur.
Donc c'est un projet pour le centre Gene Marquis, qui est un centre de lutte contre le cancer, qui a été fait aussi main dans la main. Donc on va dire qu'on a vraiment été tous très très impliqués. C'est un projet qui permet en fait d'amener un temps de détente ou de divertissement, que je pourrais appeler un temps de mieux-être, aux patients. C'est vraiment pour un endroit très spécifique qui s'appelle, c'est le service Saburo exactement, dans lequel on réalise de la curithérapie, donc c'est de la médecine nucléaire. Les patients sont à cet endroit très isolés, dans des chambres qu'on pourrait dire stériles, mais elles le sont. Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que comme ils sont traités par un soin en fait qui est radioactif, ils n'ont pas de contact possible, d'échange possible, d'accompagnement possible, ni de leurs proches, et à peine des soignants. C'est-à-dire que parfois les choses se passent entre deux sas, avec des temps de séjour qui vont être de 2 jours à 6 jours. Donc c'est assez long, et donc les personnes sont vouées à leur solitude, à elles-mêmes, avec potentiellement des facteurs de stress, enfin voilà. Donc c'est un dispositif avec des objets qui permettent en fait d'activer des temps de distraction qui sont liés aux soins de support. Le soin de support, c'est ce qu'on va appeler pleine conscience, méditation, sophrologie, toutes ces choses-là. Donc tout ce qui va pas être un outil médical, mais qui va apporter un bien-être et qui peut aider au parcours des patients. Dans la boîte, il y a 6 objets. Il y en a certains qui sont des objets qui vont être individuels parce qu'en fait on ne peut pas les garder parce qu'ils vont être complètement radioactivés, donc c'est à usage unique. Il y a des pierres qui sont des vraies pierres, amazonite, calcite, cornaline, avec des vertus, enfin, voilà, elles peuvent être que positives en tout cas sur l'effet de calmer le stress, mais sinon qui servent aussi à activer des temps de yoga, méditation, ces choses-là que j'ai écrites. Il y a des osselets qui sont des osselets en bronze, plaqué or, sur lesquels il y a gravé des mots, et en fait ça permet en fait de se lancer un oracle quand on veut, tant qu'on veut, dans la journée. C'est un prétexte en fait à de la suggestion positive, mais aussi peut-être à se construire un récit. Après il y a aussi une balle anti-stress qui est faite en agate, et cette balle anti-stress, elle est vraiment, quand on la prend en main, elle a un rebond, elle revient. On peut se masser aussi avec, c'est comme plein de roulements à billes sur cet objet. Voilà, il y a des éléments comme ça. Il y a un tout petit élément qui est traité un peu comme un bijou, qui permet en fait d'aller à l'écoute de sensations très très fines. Les plus grosses contraintes étant finalement l'aspect des radiations, parce que les objets sont vraiment soumis à la radioactivité. Et il a fallu les soumettre à des usages tests, à voir comment ils se chargeaient en radioactivité et combien de temps on pouvait prendre pour les décontaminer. Et donc pour moi, il a fallu reconnaître derrière l'usure, à savoir si les objets continuer à fonctionner s'ils étaient assez résistants.
Là, vous venez d'entendre l'extrait d'un reportage réalisé en 2022 par Elvire, volontaire en service civique. Elle avait justement rencontré la designeuse Antoinette Parot, qu'on retrouvera donc au festival Les Dialogues. Retour en studio avec Vincent Fertet de l'EHESP pour continuer à décrypter le programme. On arrive au 3e et dernier mot exploré.
Et puis enfin, observer, où là, on a fait le choix de questionner plutôt des échelles d'observation avec un journaliste essayiste, Jean-Laurent Casselli, qui lui observe la société française et son évolution, donc qui finalement observe, on va dire, l'infiniment grand. Et puis Laurent Palca du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui lui est microbiologiste, spécialiste des microbes, et qui lui va questionner l'infiniment petit. C'est plutôt une question autour des outils qu'on utilise pour regarder le monde qui nous entoure à travers ce terme « observer ».
Est-ce que vous avez eu des inspirations pour créer cet événement dont c'est la première édition, la Arène, la semaine prochaine? Ou est-ce que même là, avec les gens que vous invitez, vous avez l'impression de créer un rendez-vous un peu nouveau?
On verra ce qu'en pensent les festivaliers qui nous rejoindront. J'espère qu'ils seront nombreux le 13 mai à partir de 18h. Les premiers retours que j'ai des invités qu'on a sollicités avec mon collègue Sébastien Rio, donc directeur des presses de l'HESP, avec qui on a pensé ce festival, c'est qu'il y a un intérêt à la fois pour les termes évidemment sur lesquels ils sont invités, mais pour aussi venir écouter les autres collègues et les autres invités. Donc j'ai le sentiment qu'il y a un intérêt pour cette nouveauté, en tout cas ce pas de côté qu'on cherche à produire avec ce festival.
Bon, évidemment, là, les mots que vous avez choisis, moi, je trouve qu'ils renvoient à pas mal de débats de société, in fine, avec prévoir, évidemment, dans le contexte qu'on connaît de crise climatique, s'intéresser au futur, au pluriel, avec le terme mourir, évidemment, on pense au débat en cours sur le sujet de la fin de vie, et puis observer renvoie à notre rapport à la réalité, puis aussi au regard des scientifiques. Alors, ce festival Dialogue, il prendra place dans l'amphithéâtre Simone Veil à l'HESP sur le campus Villejean. Ça commencera à 18h avec les trois échanges qu'on vient d'évoquer qui dureront entre 40 et 50 minutes. Et puis à 21h, après un entracte musical, place à une carte blanche avec une dernière invitée. On n'a pas beaucoup d'éléments sur ce qui va se passer, mais on peut quand même essayer d'en donner quelques-uns.
Alors évidemment, quand on parle de dialogue, spontanément, on pense à deux ou plusieurs personnes qui discutent entre elles. Mais on avait aussi envie de mettre le projecteur sur ce qui relève d'un dialogue intérieur. C'est-à-dire que les mots, ils s'adressent aussi à notre propre histoire, à notre propre expérience. Et c'est un peu l'idée de cette carte blanche, d'inviter quelqu'un à choisir un mot un peu mystère. C'est pour ça qu'il ne figure pas dans la programmation. Il sera révélé le 13 mai à 21h. Et de laisser la liberté de jouer avec les mots et de choisir les mots qui comptent. Donc pour cette carte blanche, on a invité l'anthropologue Fariba Delka, spécialiste du Proche-Orient et de l'Iran, dont elle est originaire. Fariba Delka est cette anthropologue qui a été incarcérée dans des prisons iraniennes pendant 4 ans. Et donc elle a choisi un mot, il n'y a que moi qui le connais pour l'instant, puisque j'aurai le plaisir d'échanger avec elle pour cette carte blanche. Elle nous dira pourquoi elle a choisi ce mot et pourquoi il résonne de manière particulière dans sa trajectoire.
On peut peut-être imaginer qu'il sera question de liberté ou peut-être aussi de la condition des femmes, mais ce sera au public d'aller découvrir le résultat donc lors de cette carte blanche lundi 13 mai à partir de 21h. L'événement, il est gratuit, mais il faut penser à s'inscrire tout de suite.
Il est préférable de s'inscrire en effet sur le site internet de l'EHESP. C'est un formulaire très simple et très rapide à remplir pour qu'on puisse réguler un petit peu la jauge d'accueil et puis permettre aussi à des personnes qui seraient situation de handicap de pouvoir se signaler pour qu'on puisse les accueillir dans de bonnes conditions.
Il y a 400 places, hein, c'est ça, qui sont disponibles, donc les auditeurs, ils peuvent encore prendre leur place, quoi.
Exactement, il y a encore quelques places, mais faites vite.
Donc avec cet événement qui s'appelle Les Dialogues et dont l'objectif est d'ouvrir les portes de cet établissement que les auditeurs ne connaissent peut-être pas à un public plus large que celui des étudiants qui s'y forment chaque année. L'événement sera amené à se reproduire a priori chaque année si ça marche.
On espère, comme vous le disiez Lucie, c'est une première un peu expérimentale. On est fiers de pouvoir proposer cet événement-là. En effet, comme vous l'avez dit, on est attaché à l'EHESP aussi à faire en sorte que ce qui est produit serve entre guillemets à la société en général et en particulier au quartier dans lequel on est implanté. Donc on a vocation à ouvrir les portes, à casser les murs peut-être dans lesquels parfois on enferme la pensée. C'est vraiment l'énergie et le dynamisme qu'il y a derrière ce festival. Donc on espère qu'en effet il sera plutôt synonyme de succès pour cette première édition et qu'on pourra imaginer des collaborations et peut-être un format encore peut-être plus important à Rennes l'année prochaine.
Prévoir, mourir, observer, des mots qui vont donc être explorés lors d'une soirée lundi 13 mai de 18h à 22h dans le cadre du festival Les Dialogues, une première édition qui est organisée par l'École des Hautes Études en Santé Publique en partenariat avec les presses de cette EHESP. Vincent Fertet, vous êtes donc directeur adjoint des études à l'EHESP, l'École des Hautes Études en Santé Publique. Le festival, c'est lundi prochain de 18h à 22h, on le redit, c'est gratuit mais sur inscription. Et pour plus d'informations, il y a le site internet ehesp.fr. Merci beaucoup.
Merci Lucie.
You can write it down, take a picture, tell a friend that we already done it, we gonna do it again. We used to say who this is way back when, but now I'm saying we here every time we win. But you can write it down, take a picture, tell a friend that we already done it, we gonna do it again. We used to say who that, and now we say we that. We used to say who that, and now we say we that. We used to say who that, and now we say we that.
Again par le Rebirth Brass Band sur Canal B. C'était le choix musical de Vincent Fertet de l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique, qu'on vient d'entendre dans une interview pour annoncer un nouveau festival. Ce morceau, il date de 2011 et il donne la tonalité de l'entracte musical que le public pourra entendre au festival Les Dialogues, à vivre la semaine prochaine à Rennes. Allez, l'émission d'information locale de Canal B continue avec un reportage. Et ce reportage, c'est l'épisode 8 de Dal Kennedy, une série de portraits radiophoniques d'habitants du quartier Villejean. Ce quartier, il est étiqueté QPV pour quartier prioritaire de la ville. Il s'est construit dans les années 60 et il compte aujourd'hui plus de 20 000 habitants. Et parmi eux, eh bien, il y a Abou.
Si je rate.
Ouais, t'as dit ça.
Ok, mais c'est dire.
Comme défaut, je dirais que je suis pas concentré du tout et que je réfléchis beaucoup.
Cette série de portraits part d'un constat, la faible place accordée en radio aux habitants de quartiers populaires. Alors, toute l'année, je vous propose de les écouter, épisode 8, avec Abou.
Comme qualité, quand j'aime quelque chose, ben j'y tiens et je fais tout pour le garder. Alors, quand, vu que j'aime le foot en soi, quand j'en fais, je me la donne. Moi, du coup, je m'appelle Abraham et j'ai 17 ans. Et donc, je suis au lycée à Joliot-Curie. Je suis en STL, terminale, sciences, technologies, des laboratoires, s'il y en a qui ne savent pas, du coup. Et donc, c'est tout. C'est un peu ce que je suis dans la vie. Là, on se trouve, du coup, au Berry, plus précisément au foyer du Berry, du coup. Et en gros, là, on est en pleine réunion pour la préparation d'un événement qu'on renouvelle là depuis 2 ans. Qui a été créé en 2022. Et donc, on est en réunion pour réorganiser encore pour le 8 juin 2024, pour ceux qui veulent venir, du coup, l'événement qui s'appelle le Berry Event. Pour vous expliquer en bref, c'est un événement qui a été créé par des jeunes. On a eu l'idée donc de faire un événement pour le quartier, pour leur faire plaisir et pour montrer un peu que les jeunes, on veut faire des trucs pour le quartier et qu'on est ambitieux. Berry Event, c'est moi d'ailleurs, j'ai trouvé le nom de l'événement. Il n'y avait que des animateurs ou des personnes extérieures qui venaient pour faire des trucs pour le quartier. Et donc on se disait que nous aussi, il fallait qu'on participe un peu à la vie du quartier. On s'est dit pourquoi pas créer un événement qui réunit les petits, les grands, les vieux et tout le monde, quoi. On est surtout le Berry, le stade, le sol rouge, un peu le parc. On est partout un peu sur le Berry. Et en gros, on propose différents pôles d'activités. Il y a des activités sportives, culturelles. Il y a atelier maquillage. Il y a des personnes qui viennent et qui se maquillent. Il y a aussi, on avait eu une activité d'art. En gros, c'était, on avait posé une fresque et en gros, tout le monde pouvait rajouter un peu son petit grain, sa personnalité. Et du coup, à la fin, ça nous a donné une grande fresque et c'était magnifique. On l'a laissé sur le Berry pendant quelques temps et puis ils l'ont enlevé. On a des activités gonflables et celui qui a le plus de succès, c'est Fatal Balayette. Alors ça, c'est vraiment le jeu qui revient toutes les années. et qui a vraiment beaucoup, beaucoup de succès parce qu'il y a vraiment les vieux, les enfants, les adultes, tout le monde est sur l'activité. Et donc, ils se font balayer, quoi, en fait. C'est tout simplement, c'est ça, le but de l'activité. Donc, tu dois éviter à tout prix de te faire balayer.
Sur la préparation de l'événement, dans quel groupe tu es, toi, qu'est-ce que tu prépares ?
Moi, personnellement, cette année, en tout cas, j'étais pas trop présent, malheureusement, parce que je terminais tard. Mais là, je vais m'occuper trouver des partenaires, entre guillemets, trouver les mails des chaînes de journalisme pour essayer de les inviter à l'événement et qu'ils soient médiatisés pour qu'il y ait plus de monde l'année d'après. Parce qu'on veut réunir même des gens qui viennent pas de Villejean et ils peuvent venir.
Est-ce que tu peux me raconter depuis quand tu es dans le quartier Villejean et peut-être me dire à quoi ressemble ton lieu de vie ?
Moi, ça fait depuis 2015. Là, ça fait 9 ans du coup que je suis au quartier de Villejean. Avant, j'habitais à Marseille. Et donc, je suis arrivé quand j'avais 9 ans. On n'avait pas trop de repères, mais en vrai, on s'est très très vite intégré. Parce qu'en soi, j'avais déjà mes cousins, etc. Et donc, ouais, franchement, Villejean. Je sais pas comment dire, mais je vois pas où j'aurais pu grandir d'autres. Personnellement, après, peut-être que c'est parce que j'ai grandi ici et que je me dis ça, mais que, en vrai de vrai, franchement, le quartier m'a toujours satisfait. J'ai jamais cherché à aller autre part ou quoi. J'aime mon quartier. Moi, où j'habite, c'est vers la zone des appartements. Un peu dans l'ouest de Villejean, okay. On va dire. Je suis vraiment dans l'ouest.
Après la dalle
Ouais, après la dalle, ouais. Et franchement, là où j'habite, c'est calme. Il y a un skatepark jusqu'à côté. C'est vraiment... Il y a tout à disposition. Il y a des lieux où tu peux aller manger. Il y a des lieux où tu peux aller acheter, faire tes courses, etc. Franchement, on manque de rien en soi. En vrai, je me sens bien où je suis.
Avec qui tu vis ?
Avec ma mère et mon père, et mes sœurs du coup. On n'a jamais eu de problème concernant quelqu'un du quartier qui venait ou qui voulait faire n'importe quoi avec n'importe qui.
T'as combien de sœurs ?
J'en ai 4. Et un frère, un grand frère.
Est-ce que je peux te demander tes origines ?
Ouais, bien sûr. Moi, je suis comorien. Du coup, je suis comorien français, du coup. Et on a tous la binationalité.
Est-ce que tu as encore des liens avec les Comores
oui,
par la langue
Oui, bien sûr, je parle comorien. J'y vais le plus souvent possible. En fait, le billet il est très cher, ça veut dire. Du coup, on n'y va pas vraiment souvent, vu qu'on est nombreux surtout. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2017. Et ouais, j'ai beaucoup de contacts avec ma famille aux Comores, avec la famille de mon père, avec la famille de ma mère. J'ai pas de difficultés à trouver mes racines, etc. Il y a tout qui est écrit. Partout un peu chez moi, donc on s'intéresse beaucoup quand même à notre histoire.
Est-ce que tu peux te présenter en comorien ?
En comorien ? Ah, je sais pas, je suis gêné de parler comorien. En fait, j'hésite parce que j'ai peur de me tromper.
Ah ouais ?
Et donc s'il y a quelqu'un qui écoute et qui suit et dit n'importe quoi... Mais...
Qu'est-ce que tu... Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît particulièrement dans la culture comorienne ? Cuisine, culture...
Ouais, la cuisine, hein. Franchement. En vrai, il y a beaucoup la cuisine. Tous les plats comoriens, mes parents, ils les font. Donc il y a le pilau, il y a le tibet, il y a le mkachafucha, couscouma, il y a plein de plats. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui sait tout faire du coup, parce qu'elle a grandi aux Comores, elle est arrivée ici à 18 ans.
C'est souvent pimenté ou pas ?
Ouais, c'est épicé en vrai de vrai. Mais en vrai de vrai, on peut manger sans épices. Mais bon, le goût il est meilleur quand il y a les épices quoi. Mais c'est pas trop trop pimenté. Il y a aussi le fait que dans notre culture, j'ai l'impression que être gentil, c'est imprégné dans notre culture. J'ai jamais vu vraiment de Comorien méchant. Et donc, franchement, c'est ça que j'aime. On est vraiment très gentil, on est convivial, on est très hospitalier. Voilà. Et il y a quoi encore ? Il y a les Comores, c'est beau. Voilà. C'est ça que j'aime aussi, c'est que vraiment l'archipel des Comores est très belle. Il y a des îles, c'est paradisiaque, entre guillemets. Et, voilà, c'est ça que j'aime. je sais que les personnes à l'extérieur, ils n'ont pas une très bonne vision de Villejean. Pourtant, bah, en vrai, ils ne sont pas en fait pour le dire. Mais quand ils regardent de l'extérieur, ils voient juste un quartier avec des problèmes, des rixes, de la drogue, tout ça. Mais en soi, c'est pas vraiment ça. Même si on sait que le deal, il est imprégné dans Villejean, on sait que c'est lié, ce sera forcément lié tout le temps.
Tu le vois au quotidien ou on finit par plus y prêter attention ?
Je le vois au quotidien. Mais franchement, vu que c'est la routine, j'y prête plus trop attention. Mais je sais qu'il y a et qu'il va continuer d'y avoir du deal à Villejean. Malheureusement, du coup. Mais on essaie de plus prêter attention. On essaie d'éloigner les gens de ça. Et plus ça sera boycotté, entre guillemets, et moins il y aura de personnes qui vont le faire. Et par contre, je trouve ça bien qu'il y ait moins de personnes qui le font, parce qu'à la base, il y avait beaucoup de personnes. Mais à Villejean, maintenant, il n'y a plus beaucoup de personnes qui deal. Et moi, je trouve ça bien parce que ça fait qu'on voit que les gens, ils avancent et qu'on ne reste pas... dans cette image un peu de débauche où on est juste des dealers et qu'on va pas s'en sortir quoi. Et moi j'aime pas du tout cette image parce que du coup ben ça fait naître des préjugés auprès des autres.
C'est quoi le lieu où tu passes le plus de temps en dehors de ton logement, dans le quartier
Ben, en vrai je dirais le Berry. En vrai ouais quand on sort on va au Berry. On tourne un peu partout. On essaye d'éviter la dalle quand même. Mais on traîne un peu partout, en vrai, de vrai. Même quand on est sur la dalle, en vrai, c'est tranquille.
Y a qui dans ton groupe de potes ?
Je suis un peu dans plusieurs groupes, mais le groupe principal où vraiment je sors, ben, serait Elan Riff, Elias, Daoud, Yanis, FX, son prénom il est trop long, Enzo, Kossi et Boran. Ils viennent tous presque de Villejean, mais il y en a un qui a déménagé. FX, il a jamais été à Villejean.
Ok.
Mais sinon, ouais. Et Yanis aussi, il est pas à Villejean.
On parle de quoi quand on a 17 ans, qu'on habite à Rennes et qu'on est entre potes ?
Oh, je sais pas, il y a beaucoup de sujets. Bah, vu que nous, on est dans notre groupe, on joue tous au foot. On parle beaucoup de foot. On parle de situations qu'on a vécues. On essaye de voir la vie des autres et voir si on a bien réagi, des choses comme ça. On essaye un peu de voir les points de vue de tout le monde. On raconte nos situations, et, bah, on parle de filles de temps en temps, pas tout le temps quand même. En fait, c'est varié, on parle de beaucoup de choses. Et vu qu'on n'a pas du tout tous la même personnalité, ça fait que ben y a beaucoup de choses à parler et on se vanne beaucoup aussi.
Ouais. T'es supporter de quel groupe de foot ?
Moi, je suis pour Marseille et pour le Barça.
T'as d'autres activités que le football ou
Ben ouais, j'ai beaucoup de choses en vrai. Y a ben, les jeux vidéo. Y a bah, mon téléphone, en vrai, je suis beaucoup sur mon téléphone. Il y a le foot, de temps en temps les livres. Quand je suis un peu dans ma période où j'ai envie de m'instruire, bah, je lis des livres, mais pas trop. Je joue beaucoup avec mes petites sœurs aussi. De temps en temps, quand on a le temps, on joue à des jeux.
Est-ce que tu sais ce que tu veux faire quand tu seras adulte ?
Ah, je sais pas du tout. J'ai aucune idée, vraiment. Bah, en vrai, mon futur il est un peu flou. Pourtant, je fais que d'y penser, mais... C'est quand même flou, mais je pense que je trouverai une solution le moment venu. Enfin, j'espère en tout cas.
Il y a des matières dans lesquelles t'as, je sais pas, des meilleurs résultats que les autres et qui...
En sport, déjà.
Ouais.
En maths, je suis bon, mais je suis pas trop concentré en cours. En chimie, ça va. En travaux pratiques, bien sûr. Mais après, l'exploitation, après les travaux, c'est moyen. En gros, je suis plus dans
la pratique
que dans la théorie. J'ai le temps, mais bon, quand je vois les personnes de mon âge qui savent déjà ce qu'ils veulent faire ou qui ont déjà un peu un chemin tracé, ben, je me dis que je prends un peu de retard. Mais bon, on me rassure quand même, on me dit que ça va, j'ai 17 ans, donc ça va. On nous presse quand même un peu, donc voilà, il faut que je me bouge.
Dernière question, ce sera de te demander un morceau de musique qui te suit depuis longtemps et que t'écoutes beaucoup, ou alors ton coup de cœur du moment, et je m'engage à le diffuser à la fin de l'interview.
Mon coup de cœur du moment, je dirais l'atterrissage de Genesio.
C'est surtout du rap que t'écoutes ?
Ouais, surtout, mais j'écoute de tout. On me voit un peu comme un mec bizarre des fois, mais ouais, j'écoute de tout.
Pourquoi ? Quel genre de musique tu écoutes et ça peut surprendre ton entourage ?
Parce que des fois, j'écoute un peu de pop. Et j'écoute un peu des musiques plutôt stem ou genre des musiques qui passent comment dire dans les magasins. Genre, c'est pas vraiment des musiques que les gens ont l'habitude d'écouter, de mon âge en tout cas et de mon entourage.
Des musiques d'ambiance, un peu chill.
Ouais, voilà, exactement chill. Du coup, ben, faut on dit que je suis bizarre, mais en gros, je me fous.
C'est quoi ta voix de
T'as vu pas, wesh?
Il a trop parlé.
Ouais, il a trop parlé, il est trop dédié. Vous l'avez cassé ça en toi, madame. Dans le toi, t'as oublié les gens. La tête dans le guidon, toi, t'as oublié les gens. La tête dans le guidon.
Thank you.
Chaton Laveur avec le titre L'homme des sons du songe. C'était une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur musical à la radio. Un morceau à retrouver sur l'album État sauvage qui est sorti le 12 avril chez Jaune Orange. Un 8 titres qui forme le premier album pour Chaton Laveur, ce duo belge au nom très mignon, qui rôde dans les abîmes du minimalisme à la recherche de mélodies légères et enivrantes. Vous venez d'entendre un extrait de cet album sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale, qui se termine chaque jour avec la recommandation du jour. Alors la recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous, aussi parfois des idées de lecture, de podcasts, de documentaires, voire d'associations à suivre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on annonce ? Eh bien le lancement d'un cycle de conférences, ça s'appelle Transition, et c'est une idée de Rennes Métropole en partenariat avec l'Université de Rennes et Rennes 2. Pour le premier rendez-vous, direction l'hôtel de Rennes Métropole, mardi 7 mai à 18h, pour se poser la question suivante. Face à l'hyperconsommation, que faire ? Pour en parler, il y aura un invité, c'est Gilles Lipovetsky. Il est philosophe, sociologue et membre du Conseil d'analyse économique. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les thèmes de l'hypercroissance et de l'hypermodernité. Le dernier en date, il s'appelle « Le nouvel âge du kitsch, essai sur la civilisation du trop ». Ça a été publié en 2023 avec le professeur d'université Jean Serrois. D'autres conférences auront lieu sur ce thème des transitions, on les annoncera sûrement. L'objectif en tout cas, c'est de concevoir ensemble un avenir durable, inclusif, imaginer de futurs modes de vie, de faire à la croisée des chemins entre la science, l'industrie, la technologie, l'environnement, la formation, l'éducation, la culture et l'éthique. Tout un programme. C'est terminé, une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.